un paralytique. Et là, Jésus va dire, tes péchés te sont pardonnés. Et là, ça va susciter des choses chez le religieux de l'époque. Ils vont se dire, mais c'est qui celui-là? Il sort d'où? Pourquoi il se permet de dire des choses comme ça? Et puis, c'est là que on arrive à ce verset-là. Les spécialistes de la loi et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, qui est cet homme qui profère des blasphèmes, qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul? Ça discute. Jésus connaissait leurs pensées. Il prit la parole et leur dit, pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile de dire? Tes péchés te sont pardonnés ou lève-toi et marche? Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ta civière et marche. Waouh! Quelle réaction! Ah, peut-être que tu as trop lu ce passage. Il commence à t'ennuyer. Tu le lis et tu le relis, mais il t'ennuie celui-là. Excuse-moi, mais on continue nous-mêmes à écrire la parole de Dieu, mais ce n'est pas écrit. Mais ça, c'est ce qui est écrit, d'accord? Donc on le relit et ça nous encourage. Et moi, ce matin, quand j'étais dans l'intercession, c'est ce passage qui est venu. Et je me suis dit, on a besoin de cette foi-là. Cette foi qui produit des miracles. Alors, on va revenir sur le verset avant. Et qu'est-ce qu'il nous dit, le verset avant? Il nous dit, ils ont commencé à parler, ils ont commencé à murmurer parce que Jésus a dit, tes péchés te sont pardonnés. Et parfois, nous, on est pareil. On commence à raisonner. Quand il y a la louange, quand il y a la prédication, quand on entend des choses, ça passe par nos oreilles, ça passe dans notre cerveau, et on est tellement intelligent, on est des experts, on connaît la Bible, on raisonne. Mais qu'est-ce qu'il dit celui-là? Est-ce que ceci, est-ce que cela, est-ce que ce culte était spirituel? N'était-il pas assez spirituel? Vous voyez, on commence à juger les choses comme ça, et on juge même des choses de Dieu qui se passent vraiment. On est très fort, hein? C'est juste ou c'est pas juste? Notre tête tourne. Et moi, j'appelle ça le temple de la pensée. Ah, le temple de notre pensée. On le chérit beaucoup. On aime bien chérir nos pensées. Tout ce qu'on s'est convaincu, tout ce qu'on croit savoir, le savoir, la connaissance. Et vous pouvez lire la Bible de cette manière-là, en vous disant, ben voilà, je vais apprendre quelque chose de nouveau et c'est très bien. Mais à un moment donné, il faut mettre la foi en action. Est-ce que tu vis ce que tu dis, ce en quoi tu crois? Est-ce que tu vis ce en quoi tu crois? Alors mettez-vous à la place de cet homme, ça discute, Jésus est là, et vous avez le paralytique là, qui est allongé. Alors on va faire un petit mime, je serai le cobaye. Il est allongé ici, d'accord? Il est bien, hein? Vous me voyez là? Il est comme ça, et là apparemment les péchés lui sont pardonnés. Qu'est-ce que ça change à sa vie? Qu'est-ce que ça change à sa réalité? Jésus a transformé son éternité, peut-être, mais dans sa réalité, il ne se passe rien. Et là, ça discute. Ah, lui, il pardonne les péchés, mais attends, c'est du blabla, tout ça, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il n'y a rien derrière. C'est des foutaises. Mais avant, il a dit, si vous lisez les versets précédents, Jésus va pardonner les péchés à cause de la foi des hommes. Et le miracle va se faire à cause de la foi des hommes également. À quel moment le miracle se produit? Eh bien, il se produit au moment où cet homme-là, Jésus va lui dire, maintenant, lève-toi et marche. Cet homme-là, il aurait pu dire, ben non, je suis bien, c'est sympa. J'ai mes pensions, je suis tranquille, je suis à la maison, je ne dois pas aller bosser. À quel moment le miracle va se produire? Eh bien, Jésus va mettre à contribution la foi de cet homme. Au moment où il va croire, instantanément, il va croire en la parole de Jésus, il va se lever. Il va croire. Alors ce matin, est-ce qu'on peut être comme cet homme et croire en la parole de Jésus et manifester notre foi ensemble, selon la parole de Dieu? Alors ça nous encourage. Ça dure une fraction de seconde. Il n'y a pas besoin de passer 3 semaines dans le jeûne et la prière. C'est une connexion directe. Alors qu'en est-il de ta foi là maintenant, là tout de suite? Et moi, je me pose la même question. Qu'en est-il de ma foi là maintenant? Est-ce que je suis capable de croire simplement? Alors, gardez ça en tête. On va continuer du coup notre petite traversée biblique. Donc pour ceux qui n'étaient pas là, on a dit Dieu est au contrôle et on a parlé de l'histoire d'Abraham et Lot. Vous souvenez de ça? Qui se souvient de ça? Il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas là, faites-moi un signe, comme ça me donne un petit peu une idée où je... Voilà. Bon, bah, je vais refaire quelques petites... On va rappeler quelques petites choses. Donc Abraham avait pour père Térakh, et Térakh avait décidé de quitter Ur pour aller à Canaan. Et en route, il s'est arrêté. Il s'est arrêté où ça? À Charan. Si vous étudiez les cartes un petit peu, Charan, c'est pas vraiment la route de Canaan. Et pourtant, il y a écrit qu'il avait décidé d'aller là-bas. Dieu avait un plan déjà, qui avait déjà suscité et soufflé sur le père d'Abraham. Mais là, si vous regardez, il va un petit peu à l'opposé. Alors bien sûr, il y a le contexte, la géographie, donc il y a un petit détour à faire, mais ce n'est pas le chemin le plus court. Térakh s'est arrêté, a été attiré hors de l'endroit où il devait aller, où il voulait aller. Abraham, il est là, et quand son père meurt, à nouveau, qu'est-ce qui va se passer? On a cette fameuse, en Genèse, on a cette promesse, et ça va être « quitte ton pays ». Si tu peux nous donner le verset, donc « quitte ton pays », c'est la promesse. Tu vas quitter ton pays. En Genèse 12, donc on est en Genèse 12, on avait lu pas mal de versets, on ne va pas les relire. Genèse 12, versets 1 à 3, « quitte ton pays, quitte ta patrie et ta famille ». Il faut que tu quittes tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a retiré de ça? C'est que Dieu avait un plan déjà qui dépassait la personne de Térakh et un plan qui dépassait la personne d'Abraham. J'aimerais te dire ce matin, tout n'est pas centré sur toi. Tout n'est pas centré sur toi, sur ta destinée, sur tes besoins, sur tes rêves et sur ce que tu as envie d'accomplir. Il faut prendre du recul et regarder que Dieu a un plan bien plus global que ta petite vie. Maintenant, je suis d'accord que Dieu est un Dieu de rencontre et qu'il veut te rencontrer personnellement. Parce que pour que tu puisses intégrer son plan, il y a des choses à faire avec toi. Il veut changer ton cœur et il veut te préparer à la mentalité du royaume de Dieu pour pouvoir le suivre. Mais tout ne tourne pas autour de toi. Ça marche ? Alors, on a dit aussi que les histoires bibliques dans les temps, l'histoire en elle-même, l'histoire des hommes, nous apprend beaucoup de choses. Nous apprend beaucoup de choses sur leur caractère, sur ce qu'ils ont fait, sur leurs failles, sur leurs faiblesses, sur leurs réussites, sur leurs joies. Et ça nous apprend sur nous-mêmes, parce qu'on est confronté à des réalités. Et la Bible, quand vous prenez du recul, elle va nous parler de quoi? Elle va nous parler du plan de rédemption de Dieu pour l'homme. C'est l'histoire de la Bible, du plan de rédemption pour l'homme, pour l'humanité. Toi, tu en fais partie, tes voisins en font partie, notre pays en fait partie. Et où est-ce que moi, je me situe dans tout ça, finalement? Et c'est assez complexe. Quand vous lisez la parole, mais qu'est-ce que je fais là? À quoi je sers? Pourquoi Dieu? Enfin, qu'en est-il de moi? Et on ressent souvent sur nous. C'est juste. Mais il y a un plan plus global. La Bible est claire là-dessus. La terre court à sa perte. L'humanité court à sa perte. Alors, ce n'est pas très encourageant ce que je vous dis. Vous inquiétez pas, on ne va pas tomber dans une prédication où je vais vous dire c'est fini, c'est la mort. Non, c'est juste une réalité en fait. L'humanité court à sa perte. La parole de Dieu dit même que la création soupire, la création elle-même, depuis la chute. L'homme a été perdu, l'humanité a été perdue. Et Dieu a dit, j'ai un plan de rédemption. C'est ça notre espoir. Aujourd'hui, on parle de pollution, on parle de... La Bible est claire là-dessus. L'humanité court à sa perte. Alors, t'étonne pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire tout et n'importe quoi, mais ça veut dire qu'il y a une réalité et que Dieu t'en parle dans la Bible. C'est clair, il suffit de lire. On est dans les temps où la parole de Dieu est la plus accessible. Elle n'a jamais été autant accessible. Alors même que la terre est le plus peuplé de tout ce qu'il y a pu y avoir sur l'histoire de l'humanité. Il y a le plus d'hommes sur terre et aujourd'hui on a accès le plus facilement. Elle est traduite dans toutes les langues, dans une majorité. On peut l'avoir sur un iPad, sur un téléphone, en papier. La notice est là. Dieu nous parle, il veut nous parler. Et pourtant, on a parfois du mal à comprendre ses plans. Le plan de Dieu, c'est la rédemption. La Bible nous raconte cette réalité de l'homme qui est corrompu, de son cœur qui est tortueux. On est tous faits de la même pâte. Il est capable du pire comme du meilleur. Est-ce que vous êtes capable du pire ? Moi, je suis capable du pire. Ah ! Je dis à Chanel, tu sais, dans mon métier, il y a une chose. Elle me dit, bah, écoute chérie, j'aimerais bien que tu fixes deux bacs. Ça fait déjà 2 semaines qu'elle attend dans la cave. Donc je dois fixer deux bacs. Donc j'ai besoin de mon perforateur, j'ai besoin d'une cheville et j'ai besoin de fixer les bacs. Sauf que ça traîne. Et toute la journée, je travaille, je donne tout ce que j'ai pour mes clients et j'arrive chez moi, il n'y a plus de jus. Et je dis à Chanel, tu sais, j'ai besoin d'être inspiré. Parce que si je ne suis pas inspiré, je vais faire n'importe quoi. Ça vous arrive, ça ? Quand vous ne le sentez pas, vous ne le sentez pas. Vous allez être capable du pire. Il n'y a rien qui va fonctionner. Alors moi, je dis à Chanel, c'est un peu mon excuse, je suis rarement inspiré à la maison. Mais on est capable du pire comme du meilleur. On se connaît nous-mêmes. On sent les choses arriver. On le sent dans notre caractère. Et là, je vous parle de petits détails de la vie du quotidien, mais il y a des choses bien plus graves. Et vous le sentez arriver. C'est l'histoire de l'homme. Or, Dieu va parler à Abraham. Et là, il a commencé un plan, un sacré plan. On l'appelle le père de la foi. La parole est claire, Jésus va revenir. C'est notre espérance, il reviendra. Est-ce que tu es content ? Jésus reviendra. Ah, moi, je suis content. J'arrive pas à l'imaginer. Clairement, mais je me dis, waouh, Dieu, tu vas revenir. Tu vas venir chercher ton épouse. Est-ce que je serai prêt ? Et il y a cette parole qui dit, et c'est Jésus lui-même, il va dire en Luc 18, versets 7 à 8. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit ? Le fera-t-il attendre ? Je vous le dis. Il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre ? Jésus qui nous dit, quand je vais venir, quand je serai là, c'est une parabole où il nous parle de la prière, où il dit, il faut prier jour et nuit, il faut prier, il faut méditer. Et il dit, parce que je vais revenir à un moment donné, mais est-ce que je vais trouver la foi sur terre ? Parce qu'on peut tomber vite dans des raisonnements, on peut tout savoir et pourtant la foi, elle n'est plus là, elle a disparu. On peut être très intelligent, on peut interpréter tout ce qu'on veut, et pourtant, il n'y a plus la foi, il n'y a plus la vie de Christ en nous. Trouvera-t-il la foi sur terre ? S'il venait demain, trouvera-t-il la foi dans ton cœur ? Ah ! Où est-ce qu'il va trouver des habitudes ? Un fonctionnement ? Trouvera-t-il la foi sur terre ? Moi, ça m'interpelle. Et ça, c'est lié à la prière. De dire, vous savez, il faut prier. Et dans l'histoire d'Abraham, là, tout est représenté. Vous vous souvenez de l'histoire ? Donc Abraham commence bien, il commence bien, c'est super. Il reçoit la parole de Dieu, quitte ta famille, quitte tout. Il part, il part de Charan, il quitte Charan, il arrive à Sichem en Canaan. Et là, il va faire un autel à l'Éternel, Dieu va lui parler. Tout va bien, il est dans le plan de Dieu, il est avec son neveu Lot qui a plus de parents. Donc il s'en occupe, vous voyez, c'est la culture, on en parlait au groupe Croissance, c'est un peu culturel. Si quelqu'un meurt dans la famille, on s'occupe. Et vous voyez là ce qui va se passer, il va être au bénéfice de la bénédiction et de l'alliance faite avec Dieu. On dit qu'il y avait beaucoup de troupeaux, il y avait des richesses, Abraham fonctionnait bien. Mais vous savez, Lot, c'est quelqu'un de versatile, c'est quelqu'un qui a un sacré caractère, un sale caractère même. Et au lieu de s'accrocher à son oncle et dire « Moi, je veux le même tempérament que lui, j'aimerais avoir son caractère », il va convoiter ses richesses. Et petit à petit, en Canaan, il y a différents peuples. Et Lot, il va regarder ce qui se fait ailleurs. Il a vu la vie, ce que c'est la vie avec son oncle, mais maintenant il va voir la vie des autres peuples. Tiens, c'est sympa là-bas, ils ont des super TV OLED, ils sont 5 générations au-dessus. Ils fonctionnent avec l'iPhone, ils fonctionnent avec des tablettes. Moi, je veux ça, moi, maintenant. C'est fini, les bœufs. Ils voient des nouvelles technologies, ils voient des choses nouvelles, ils voient des fonctionnements différents. Et sa convoitise est encore animée à Lot. Et il regarde. Et là, vous allez voir que finalement, Abraham, au contact de son neveu, petit à petit, hop, il va faire comme son père, il va s'égarer sur la route. Il va être influencé. Sais-tu que tu es influencé ? Tu es influençable, pas plutôt. Tu es influençable. Et vous allez voir que les commentaires rabbiniques nous disent que eh bien, la présence de Dieu s'était retirée d'Abraham. Dieu n'était plus avec lui. Il va venir, il va faire un autel, il va aller devant l'Éternel, il va l'invoquer. Dieu n'est plus là. Et il se retrouve à prier le Seigneur, il ne sait pas pourquoi Dieu n'est plus là. Il ne lui parle plus. Ça vous arrive ça ou ça ne vous arrive pas ? Moi ça m'arrive, hein. Je le sens quand je m'éloigne de Dieu. C'est plus pareil. Mon caractère change. Je reviens vers mon ancienne nature. Et quand je m'approche de Dieu, je sens des nouvelles choses qui viennent en moi. Là, je dis, ah, je me rapproche de l'autel. Et on avait tiré cette conclusion. Il va se retrouver en Égypte. Et là, il va prendre une claque en Égypte. Il va frôler la catastrophe. Il va dire, c'est plus possible. On fait demi-tour. Et Abraham va retourner à l'endroit où Dieu lui avait parlé pour la dernière fois, à l'autel. Et il a compris quelque chose. Et la leçon qu'on va retirer aujourd'hui, c'est quand Dieu te parle, quand il y a un plan de Dieu pour ta vie, à un moment donné, il faut savoir dire non, il faut savoir dire stop. La responsabilité d'Abraham, c'était de garder, de protéger cette vision, de protéger cette alliance, de protéger cette promesse. Et il commençait tout doucement à être influencé, à aller sur la pente glissante. Parce que Abraham était le garde-fou de Lot, son attitude, sa façon d'être protégé Lot. Mais à un moment donné, lui-même était, c'est l'histoire des vases communicants, lui-même était influencé. Et là, il va dire, stop, on arrête là. Et à Sichem, au même endroit, il va dire à son neveu, ça suffit, on arrête. On se sépare. Et vous voyez, à ce moment-là, Lot est arrivé quelque part au même stade qu'Abraham. Il y avait beaucoup de troupeaux, il y avait des bergers, il y avait les mêmes richesses que lui. Et là, le prétexte, ça va être que les bergers se... Ça ne va pas, ce chamaille. Et là, il va lui dire, si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Vous vous souvenez de ça ? Il veut plus, Lot. Et on dit, vous vous souvenez, on a lu ce verset, il va lever le regard et il va dire, je vois la plaine du Jourdain, c'est comme en Égypte, cette richesse. Et il est attiré vers cette richesse. Et là, Dieu va parler à nouveau à Abraham et va lui dire, regarde, ce que je t'ai promis, c'est là maintenant. Dieu lui parle à nouveau. Parce qu'il s'est rapproché, il est revenu. Il est revenu à la promesse de l'Éternel. Reviens à l'autel, au dernier autel où Dieu t'a parlé. Parce que c'est là que tu vas retrouver le chemin. Ça, c'est une leçon pour nous. Il a appris quelque chose, il faut savoir dire non. Il faut savoir dire stop, il faut savoir s'attacher. Il faut faire attention avec qui tu fais une alliance, parce que ça va t'influencer. Proverbe nous dit, on va le lire ensemble. Celui qui marche en compagnie des sages devient sage et celui qui fréquente des hommes stupides se retrouvera en mauvaise posture. Pas plus clair. Je vais rien rajouter. C'est très clair. Sacré Lot. Alors ensuite, on s'est rendu compte que, c'est que ça va crescendo. Lot, il convoite. Il va aller dans la plaine du Jourdain, vous avez Sodome, vous avez Gomorre, et il va s'arrêter d'abord à Tsoar. Il va mettre ses tentes, il nous est dit qu'il met ses tentes à Tsoar. Et petit à petit, notre ami Lot, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va s'approcher, comme étant attiré, comme un vortex qu'il tire. Il va s'approcher de où ? Il va s'approcher de Sodome, jusqu'à y vivre. Ce qui nous amène à notre suite. Vous vous souvenez de l'histoire ? On ne va pas tout raconter. Il se passe quelques dizaines d'années. Abraham continue, son nom est changé d'Abraham à Abraham. Voilà, il y a toute une histoire, vous irez lire. Il passe par des épreuves, voilà, des bonnes, des mauvaises, voilà, peu importe. On retrouve, ils vont se retrouver parce que Abraham a toujours gardé un œil sur son neveu. Et là, il va aller le secourir. Et là, il y a une première chance, Lot. Il va aller le secourir. Il va avoir une guerre contre Sodome. Et Abraham va venir à sa rescousse. Et là, Lot avait une chance de dire, mais est-ce que je ne devrais pas retourner là-bas? Et il ne va pas le faire. Il va s'enfoncer encore plus dans la ville. Et on va le retrouver quelques années plus tard. Vous vous souvenez de cette histoire? Eh bien, l'Éternel vient parler directement à Abraham, celui qui est maintenant proche du cœur du Père, et va lui dire, voilà, mes plans, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Je ne vais pas lui cacher, je vais lui dire ce que je vais faire. Je vais anéantir Sodome et Gomorre parce que c'est plus possible. Le péché a atteint une telle sommité que Dieu ne supporte plus ça. Et il va lui parler. Et là, Abraham va commencer une intercession. Souvenez-vous de ce verset qui nous dit, il faut prier. Jésus qui dit, je trouverai-je encore la foi quelque part? Il faut prier pour ça. Et qu'est-ce que va faire Abraham? Il va prier ici, et il va commencer à 50 justes, et il va s'arrêter à 10 justes. S'il y a 10 justes dans cette ville, épargne la ville. S'il y en a 10, épargne la ville. Qu'est-ce qui va se passer, à votre avis? Vous connaissez l'histoire? On va prendre Genèse 19, versets 1 à 17. Dieu envoie deux anges à Sodome pour vérifier si vraiment les cris qui ont été entendus de la part de l'Éternel sont réels et se présenter devant Lot après la prière de son oncle. Juste après, les deux anges arrivèrent à Sodome vers le soir. Lot était assis à la porte de la ville. Quand Lot les vit, il se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna visage contre terre. Lot connaît l'Évangile, connaît Dieu, connaît, a vécu avec Abraham. Et là, quand il reconnaît directement les anges. Il n'y a pas photo, il le sait, les autres ne savent pas qui ils sont. Mais lui, il les reconnaît. Où est-ce qu'il se rend compte? Il se rend compte à la porte de la ville. La porte de la ville, c'est un endroit important. C'est là où les chefs, les autorités du pays se rencontraient pour prendre des décisions. Lot est maintenant en autorité dans la ville. Il a tout. Il a la richesse, il a le pouvoir, il a une place, il est reconnu. Il a tout. Mais il reconnaît. Parce qu'il y a toujours une petite flamme dans son cœur. Et c'est l'apôtre Paul qui va dire que dans ses épîtres, que Lot avait été perturbé quelque part dans sa conscience. Il y avait une dualité en lui. Il se souvient de ce qu'il a vu, de ce qu'il connaît. Il a connu l'Éternel. Mais il a fait un choix. Il a fait un choix, c'est de s'approcher de cette ville. Et quand il voit les anges, il les reconnaît, assis à la porte, en place d'autorité. En place d'autorité. Waouh! Sacré Lot. Il a tout. On va lire la suite. Puis il dit, mes seigneurs, entrez donc chez votre serviteur pour y passer la nuit. Vous laverez les pieds, vous vous leverez de bon matin, puis vous poursuivez votre route. Petite pause. Pourquoi ils sont chez toi, Lot? Il les reconnaît, il les accueille. Si vous étudiez ces passages, il fait une teuf, Lot. Il y a du vin, il y a tout. On voit que Lot, c'est un bon vivant. Il aime un peu trop le vin. Si vous continuez à lire les Écritures, on n'en parlera pas, ça va lui causer des problèmes, l'amour du vin. Ses filles vont l'enivrer pour avoir ce qu'elles veulent. Quand les failles ne sont pas traitées, elles reviennent toujours à la surface. Et lui, il pense qu'il va les accueillir et qu'ils vont continuer leur chemin. Ah, ça ne va pas se passer comme ça, Lot. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit sur place. Mais Lot insista tellement auprès d'eux qu'ils le suivirent et vinrent chez lui. Il leur prépara un festin, fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les habitants de la ville, habitants de Sodome, entourèrent la maison. Depuis les enfants jusqu'aux plus âgés, toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent : Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit ? Fais-les sortir vers nous pour que nous couchions avec eux. La Bible, vous savez, la Bible, souvent les gens sont apeurés quand ils lisent des textes comme ça. Mais la Bible ne nous cache rien. Il n'y a pas de tabou dans la Bible. Elle nous dit tout. Jusqu'à la plus belle facette de l'homme, mais jusqu'à ses plus profondes perversions. Ils étaient prêts à coucher avec des anges. Ils ne savaient même pas qui ils étaient. Fais-les sortir vers nous pour que nous couchions avec eux. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Il dit, mes frères, je vous en prie, ne faites pas le mal. Ah tiens, il sait ce que c'est le mal maintenant. J'ai deux filles qui sont vierges, je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Papa, maman, est-ce que... Ah. Moi, quand je pense à mes filles, je suis désolé, mais je me dis, Seigneur, combien de temps il faut avoir baigné dans le péché pour être capable de dire ça? Combien de temps il faut avoir été corrompu dans son âme pour en arriver à penser ça? Et on est tous capables de faire ça, sachez-le, on est humain. Alors on veut retirer un enseignement de tout ça. Seulement ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus s'abriter sous mon toit. Qu'est-ce qu'il dit? Quand il dit ils sont venus s'abriter sous mon toit, c'est ils sont sous ma responsabilité. Quelque part, il sort la carte de sa position dans la société. Ils sont chez moi, voilà, je sais que vous n'allez pas vous arrêter, je vous donne mes filles, mais arrêtez-vous là. Vous voyez, il sort sa carte. Je suis quelqu'un ici, moi. Arrêtez-vous là. Il cherche un compromis quelque part. On lit la suite. Ils dirent, pousse-toi! Ils ajoutèrent, celui-ci est venu séjourner chez nous en étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Ils poussèrent violemment Lot et s'avancèrent pour briser la porte. Il y a de la violence là. Celui qui était reconnu, celui qui avait des amis, celui qui avait réussi, il perd tout à ce moment-là. Il n'y a plus de position, il n'y a plus d'amis, il n'y a plus de richesse, il n'y a plus rien. Et là, il découvre le poteau rose. Tout ce qui avait pris tant d'énergie à construire, tout disparaît. Est-ce qu'on n'est pas un peu comme ça, nous? On construit tellement de choses, on a tellement de projets, tellement on veut des réussites, on veut aller là, et là, et là, et là. Et on ne se rend pas compte, des fois, on se retrouve à Sodome. En une petite quinzaine d'années, comme ça. C'est un engrenage. C'est vicieux. Il n'y a plus conscience de rien, même plus la conscience du mal. Mais il reconnaît ses hommes. La flamme spirituelle redémarre là. Parce qu'Abraham n'y avait pas détourné son regard. Il n'avait pas arrêté d'intercéder pour son neveu. Il ne l'avait pas oublié. Il savait qu'il ne pouvait plus fonctionner avec lui. Il savait que c'était le moment de se séparer. Mais Dieu a un plan de rédemption pour l'homme. Et c'est jamais trop tard. L'apôtre Paul dira qu'il y aura ceux qui seront sauvés de justesse. De justesse. Lot est celui qui est sauvé de justesse des flammes. On ne va pas lire toute l'histoire. Le lendemain matin, qu'est-ce qui se passe? On se réveille. Et là, Lot, il y a encore du mal. Il dit, il faut qu'on y aille. Les anges lui disent, il faut qu'on y aille. Il faut vraiment qu'on y aille. C'est le moment. Et là, il va voir ses beaux-fils. Ils n'y croient pas. Il fait le tour de la famille. Il est en train de regarder, si vous étudiez bien ça, il est en train de regarder ce qu'il peut emmener. Mais là, c'est l'urgence, c'est sa vie qui est en jeu. Les anges, ils disent, on y va, prends tes filles, on y va, prends ta femme, tes filles. On abandonne tout maintenant. Souvenez-vous d'Abraham qui lui a abandonné tout. Lui aussi, mais ce n'est pas pour les mêmes raisons. Là, il est question de sauver ta vie. Pour sauver ta vie, peut-être que tu auras besoin d'abandonner tout. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ils sortent de la ville. Et vous connaissez la suite. Ils vont s'en aller. Il va trouver encore le moyen de négocier avec les anges. Cette ville-là, la détruit pas parce que je ne vais pas réussir à aller jusqu'aux montagnes. Je ne suis pas capable. Et là, le feu va tomber. Oh là 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 là. Moi, c'est une histoire qui m'interpelle. Deux hommes, deux destinées. Deux hommes, deux destinées façonnées par leur choix. Façonnés par leur choix. Deux hommes appelés par Dieu. Un homme qui était impatient, Lot. Il voulait ce que l'autre avait, convoitise. Convoitise jamais réglée. Regardez là où ça l'amenait. Il va finir dans une grotte avec ses filles qui vont l'enivrer pour coucher avec lui. On en apprend beaucoup sur l'homme en lisant la parole de Dieu. On apprend dans l'histoire de Lot qu'il faut laisser Dieu changer notre caractère. Il faut laisser Dieu changer notre esprit rebelle. Il faut laisser Dieu nous libérer de notre inconsistance spirituelle, de chercher que les choses charnelles. Et on a ce verset qui dit « Cherchez quoi premièrement ? Le royaume de Dieu et sa justice. » Trouvera-t-il encore la foi sur terre ? Trouvera-t-il encore la foi dans mon foyer ? Abraham a été tué le fruit des décisions d'Abraham. Nous sommes le fruit des décisions d'un homme qui a dit « Moi, Dieu m'a parlé. J'ai fait un autel. Je vais tenir le cap. Des fois, je vais devoir dire non. Des fois, je vais devoir me séparer. Mais je veux tenir le cap. » Quand est-ce la dernière fois que Dieu t'a parlé ? Et où tu t'es mis en route. Peut-être tu t'es arrêté à Charan, on en a parlé. Peut-être tu es en Égypte là. Peut-être tout fonctionne bien, tu es comme Abraham. Mais Dieu t'appelle. Il y a un plan de Dieu pour ta vie, pour les générations après. Il ne s'agit pas juste de moi, il ne s'agit pas juste de mes rêves, il ne s'agit pas juste de toute cette mentalité dans le monde où il faut se réaliser soi-même, constamment se réaliser, j'ai besoin de me réaliser. Moi j'ai besoin que Dieu réalise son plan dans ma vie. Parce que je sais que là est mon secours. Je sais que là, il va y avoir des choses qui vont durer dans le temps. Moi, je suis le fruit d'une quatrième génération de chrétiens. Parce qu'un jour, il y a quelqu'un qui a décidé de croire en Christ. Ça a coulé sur ma vie. Et après, j'ai décidé moi-même de croire en Christ. Toi, tu es le fruit de quelque chose. Peut-être que Dieu est venu te chercher directement même. Peut-être que tu es la première génération. Mais Dieu a un plan pour toi, pour le salut, pour la rédemption. Il veut t'utiliser, mais il veut te changer, il veut te transformer. Il veut que tu t'épanouisses, il veut que tu rentres dans ton identité pour pouvoir être utile, utilisable. Tu puisses prospérer, mais selon sa volonté. Abandonne tes failles. Vous savez, c'est des choses, on en parle toujours. Et j'ai toujours les mêmes questions. Comment on fait ? Il faut que tu veuilles, il faut que tu désires, il faut que ta foi soit mise en action. Tu sois comme ce paralytique, même quand tu es au fond de la fournaise. On priait pour ça ce matin. Je suis au fond de la fournaise, les chrétiens prient pour toi parce que peut-être ta conscience, tu es comme Lot, tu es perdu. Mais il y en a qui prient pour toi et à un moment donné, tu vas être capable avec ta petite foi, avec cette petite graine, de déplacer des montagnes dans ta vie pour rentrer dans le plan de Dieu pour toi. Mais regarde-les au-delà de toi, de ta réussite, de ta position, de tes réflexions. Est-ce que ça fonctionne comme moi, je voudrais que ça fonctionne ? Abraham a attendu que son père meure, qu'il avait laissé, et ensuite Dieu lui a parlé. Il n'a pas fait à sa sauce. C'était selon le temps de Dieu. Ça vous va ? La parole de Dieu s'accomplira. Souvent, on dit « ma destinée ». Sache que tu as plusieurs destinées. Là, tu vas me dire « quoi ?» Ta destinée, en fait, dépend de tes choix. Il y a un chant qui dit « mes destinées sont dans ta main ». Je peux faire le choix d'une destinée sans Dieu ou d'une destinée avec Dieu. Je peux faire le choix même d'abandonner pour un temps. Mais quoi qu'il arrive, le plan de rédemption pour Dieu va toujours frapper à ta porte. Toujours. Toujours. Mais moi, je veux éviter de me retrouver à Sodome. Est-ce que tu es comme moi ? J'ai envie que mes enfants, mes petits-enfants, et encore derrière moi, ça loue le Seigneur, ça cherche Dieu. Ça dit, Seigneur, j'ai besoin de toi, ça prie. Trouverai-je la foi sur terre ? Moi, quand je vois... On est 5-6 à la réunion de prière. Franchement, ça m'attriste. Trouverai-je la foi sur terre ? Priez, Jésus a dit. Alors oui, tu vas me dire, je prie dans ma maison. C'est bien. Enfant de Dieu, prie. Ce matin, on a prié pour tellement de choses et je peux vous dire qu'il y a déjà des miracles là maintenant. Il y a déjà des miracles dans cette salle. Des gens pour qui on a prié qui sont là dans cette salle. Parce que Dieu est un Dieu de rencontre. Il veut te rencontrer pour que tu puisses monter un autel et aller plus loin. Si tout va bien dans ta vie, il est temps d'aller plus loin. Si tout va mal, il est temps de prendre une décision. On ne peut pas dire toujours les mêmes choses. Tu dois mettre en pratique. Mets ta foi en action. Libère le trésor que Dieu a mis dans ton cœur. Arrête de raisonner, toujours passer par la tête. Rentre dans la prière, dans la présence de Dieu. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai des choix à prendre là. Je ne veux pas que ce soit charnel. Apprends à te connaître toi-même. Quelles sont tes faiblesses? Quelles sont les tendances, les choses qui t'attirent ailleurs que dans ta destinée, qu'en terre de Canaan? Tous les jours, ce n'est pas facile. Mon Dieu est avec nous, ça marche. Et vous voyez que notre ami Lot, quand il a fui, il est dit aussi qu'il n'a pas voulu rester à Tsoar. C'est pour ça qu'il se retrouve dans la grotte. C'est qu'il n'était pas prêt à recommencer à nouveau là. Au lieu d'aller vers son oncle, il est passé d'un extrême à l'autre. Et Dieu est venu à sa rencontre. Ça marche? On est ensemble? Alors, l'histoire de Lot, ça nous encourage pour toutes les personnes qui ont rencontré Dieu un jour et qui ont dit, c'est tout, je m'arrête à Charan. Ça nous encourage à nous dire, voilà, Dieu est toujours là, il ne nous abandonne pas. On le chante souvent, Dieu, tu ne m'abandonnes pas, tu ne m'abandonnes pas. C'est facile de le chanter quand tout va bien. L'histoire de Lot nous dit, travaille sur toi-même, tu as un boulot à faire. Il y a ta part, mais il y a la part de Dieu, mais il y a ta part. Jésus est venu, il a déjà tout accompli. Maintenant, est-ce que je suis prêt à rentrer dans son plan? C'est ma décision. On va vous parler, j'ai reçu un mail cette semaine, quelqu'un de l'église qui avait reçu, il faut aller à la rencontre de Dieu. Ça m'a interpellé. Allons à la rencontre de Dieu, pas tout seul dans notre chambre, c'est très bien, je vous encourage, mais ensemble. Même vision, même cœur. Et Seigneur, voilà, je ne sais pas ce que tu veux, mais je me mets devant toi, je veux monter un autel ce matin. Est-ce que ça te parle? Amen. Alors on va prier ensemble, si vous le voulez bien. On va passer un temps dans la prière.